Good Morning Business, le débrief de la matinale.
8h30, c'est donc le débrief et nous accueillons en plateau François Mickey Marty. Bonjour.
Bonjour.
Président de Via Voice. Bon, ça y est, l'inflation c'est fini, les prix vont baisser, les Français peuvent
c'est
se rassurer.
C'est fini, nous allons passer à autre chose. Les Français pensent très majoritairement, à plus de 70%, que ça va continuer encore très longtemps.
Et puis il y avait un sondage qui disait que 16% des gens en plus se restreignent, ne mangent plus.
Se restreignent, oui. Alors 45% des Français se restreignent, c'était 35% avant la progression de l'inflation. Et puis surtout, ils considèrent aujourd'hui que c'est la responsabilité de la grande distribution, de l'industrie agroalimentaire et que le gouvernement ne peut pas faire grand-chose. Donc le cocktail est un peu embêtant et on comprend que chacun, d'une certaine manière, soit un peu au pied du mur malgré tout et essaie de tirer son épingle du jeu.
Alors on reçoit aussi Éric Delannoy, président fondateur chez Denzing Conseil. Alors Eric, on était avec le patron de Lilek, hein, qui représente les grandes marques, les 100 plus grandes marques de l'alimentaire et du non-alimentaire en France. Il nous disait que, ok, ils allaient renégocier avec la grande distribution, mais que effectivement les prix n'avaient pas tant baissé que ça en termes d'approvisionnement, à part le blé et l'huile.
Alors il faut regarder effectivement dans le détail ce qui a baissé, ce qui n'a pas baissé. Une chose qui est sûre, c'est que l'énergie, elle, a fortement baissé. Maintenant, il y a toujours une démarche qui est toujours intéressante de savoir que quand les coûts augmentent, il faut absolument que les prix s'ajustent très vite. Mais que bizarrement, quand les coûts baissent, même si c'est une partie des coûts, il y a un tas de raisons pour lesquelles les prix ne doivent pas baisser.
Alors on parlera aussi de la viande végétale, puisque c'est cette première usine qui ouvre dans le Loiret, usine française pour fabriquer des nuggets, du poulet ou des steaks végétaux. Je me tourne vers Jean-Marc Daniel qui est avec nous ce matin parce que récemment converti, et vous savez que les néo-convertis en général sont les plus militants. Désormais, il est écolo et pourtant, il n'a jamais goûté de viande végétale, Jean-Marc Daniel. Qu'est-ce que vous faites ?
Oui, non, je crois qu'il ne faut pas confondre la lutte contre le réchauffement climatique, la défense de la nature, avec des positions plus ou moins religieuses, païennes, comme on dit, qui consistent à refuser la viande, à se consacrer à certains types de
mets. Mais 10 fois moins de CO2 quand vous mangez un steak végétal qu'une entrecôte.
Oui, mais moi, je pense qu'il faut laisser les gens choisir. Il faut simplement les mettre devant la réalité. C'est-à-dire, si vous mettez dans le prix de l'entrecôte son coût en CO2 au travers d'une taxe carbone.
Ça sera 1000 euros le kilo.
Mais à ce moment-là, les gens réagiront. Mais si les gens ont envie de temps en temps de s'offrir une entrecôte, je ne vois pas pourquoi on les en empêcherait.
Comme dans la série Extrapolation où la viande de bœuf devient comme du caviar.
Comme du caviar, un extra luxe.
Oui, moi je suis de la génération qui a été élevée avec Soleil Vert, ce film qui se passe en 2022. Et donc ça se passe en ce moment. Et effectivement, la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver à quelqu'un, c'est d'accéder à un morceau de viande de bœuf.
Et puis, comme on parle de gourmandise, on abordera aussi le dialogue social. Est-ce que les syndicats ne sont pas trop gourmands ? Est-ce qu'ils n'en ont pas trop demandé ? Éric Delannoy, finalement, on avait un peu l'impression qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sujets sur la table face à la Première ministre.
Il y a une surenchère de demandes, bien évidemment, puisque c'est la réouverture du grand bal des négociations. Donc forcément, ils ne vont pas venir là avec un minimum de demandes, parce que c'est toute la logique de négociation. Quand on est sur le premier round, on est sur un round où en fait on fait de la surenchère permanente.
Allez, on se retrouve juste après quelques instants de pause. A tout de suite.
Vous l'avez vécu sur BFM Business.
Il va falloir s'attaquer au nombre d'autorités. Tant qu'on aura autant d'autorités pour se prononcer sur le moindre projet, tant qu'on aura ces superpositions, ces accords intercommunaux, etc., tant qu'on aura Bordeaux qui s'occupe de la zone industrielle de Châtellerault. Vous voyez, c'est à Châtellerault, c'est la grande banlieue de Tours. Donc vous avez quand même à Bordeaux des gens qui sont responsables de l'activité économique d'une région qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine. Monsieur de Bordeaux, il s'occupe de l'ouest de Limoges et du sud de Tours. Il faut quand même raconter cette ineptie. À partir du moment où vous avez affaire à la commune, l'établissement public territorial ou la communauté de communes, le département, la région, le préfet et autant d'autorités pour ouvrir une usine, ça sera toujours compliqué. Donc là, je salue les efforts du président de la République de dire on va mettre tout le monde ensemble dans le même truc. Ce qu'il faudrait, c'est moins d'autorités. Il faut moins d'autorités, moins de textes et moins d'autorités, l'un et l'autre.
BFM Business, première sur l'écho.
Chérie, comment tu définirais l'aventure ?
L'aventure, ce serait une série spéciale Jeep. Un pack design tout-terrain, une transmission intégrale, un nouvel intérieur.
Toi, tu décris la nouvelle Jeep Compass Upland.
Et le tout en hybride rechargeable avec une offre exceptionnelle de 3 mois de loyer offert sur la gamme Compass à partir de 379 euros par mois.
C'est l'aventure garantie ?
Allons l'essayer. LO à 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 3 900 euros. 3 loyers offerts. 33 loyers de 379 euros jusqu'au 31 mai. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Détails sur Jeep.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Tech & Co, c'est toutes les innovations qui transforment votre quotidien. Smartphones, jeux vidéo, réseaux sociaux. les meilleurs experts pour vous conseiller et vous informer. Articles, directs, vidéos, tech&co.com, c'est le site pour tout savoir du numérique. Rendez-vous sur tech&co.com.
Menez. Ah, vous aimez la guitare ? Branchez plutôt votre batterie. La plus rock'n'roll des voitures électriques est de retour. En ce moment, profitez de la mini électrique des 325€ par mois sans aucun apport. Le prix aussi est rock'n'roll. Exemple pour une mini électrique LLD 36 mois. Offre valable jusqu'au 30 juin 2023. Conditions sur mini.fr. Menez. Pensez à covoiturer.
Grand déstockage pour votre jardin chez Auchan. Jusqu'à dimanche, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 50% sur tous les produits d'équipement en mobilier de jardin, barbecue, motoculture et piscine. Avec une offre pareille, on est tellement bien qu'on vivrait dans le jardin. Auchan, avec plaisir. 50% cagnotté sur votre compte Waouh Auchan sur tous les produits d'équipement jardin. Hortonnel, charbon de bois et chimie de piscine. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur une sélection de produits sur Auchan.fr. Conditions sur Auchan.fr.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les box internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 347. Et chez Canal, en 171. Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.
Good morning business, le débrief de la matinale.
Allez, le débrief, les prix vont-ils enfin baisser en grande surface ? En tout cas, les industriels de l'agroalimentaire ont accepté hier à Bercy, ils ont juré de se remettre à la table des négociations. On était avec leur représentant, le président Lilek, qui représente une centaine de grandes marques de l'alimentaire, non alimentaire. Il représente 75% de notre caddie. Et on lui a posé la question à Richard Panquio sur la différence entre les marges des industriels à deux chiffres et les faibles marges de la grande distribution. Écoutez-le.
En fait, on est en train de comparer des business models dont on vous apprend au collège que c'est pas les mêmes. La distribution, c'est un business de masse, d'énormes volumes. C'est des gens qui font des dizaines de millions de transactions tous les jours, qui pèsent entre 20 et 40 milliards et qui font donc très très gros volumes avec des marges faibles. Ça a toujours été comme ça, cette business model. L'industrie, c'est des marges plus importantes parce que c'est des chiffres d'affaires qui sont beaucoup plus faibles et des rotations qui sont beaucoup plus faibles. Quand vous regardez le vrai indicateur, qui est la marge en fait sur le coût du capital, ce qu'on appelle le coût du capital employé, etc., ouais. Vous avez aujourd'hui des ratios de l'industrie qui sont en baisse constante et vous avez des ratios de l'industrie qui sont inférieurs à certains distributeurs.
Bon alors Jean-Marc Daniel, j'ai pris un petit cours d'économie il y a quelques minutes de collège.
Alors, on apprend ça au collège, dit-il. Ce qu'on apprend au collège, en fait, c'est que pour un certain volume, effectivement, il y a ce qu'on appelle des rendements d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont vendues. On peut effectivement répartir les coûts fixes sur beaucoup de choses. Mais ce qu'on apprend aussi au collège, c'est qu'au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle des rendements décroissants. On passe du rendement d'échelle au rendement décroissant. C'est-à-dire quand on est très, très gros, il y a des coûts d'organisation, il y a des coûts de transport, il y a tout un tas de choses. Et donc, c'est pas aussi automatique qu'il ne le dit.
Coca, par exemple, qui fait 30% de marge, qui est leader sur le marché, doit faire un joli profit.
Alors, il fait un profit, mais non pas parce qu'il est très gros en tant que tel. Il fait un profit parce que, comme il est très gros, il est en situation de quasi-monopole. Ah. Et donc, le véritable...
Vous allez vous faire attaquer par Coca, si vous dites qu'ils sont en quasi-monopole.
Ah ben c'est-à-dire que leur enjeu, effectivement, ce qu'il y a d'intéressant dans la stratégie de Coca, c'est qu'ils vous disent, nous sommes en monopole parce que le produit que nous vendons est unique. Ouais. D'ailleurs, il y a une formule qui est déposée à Atlanta, que personne ne connaît, qui nous permet de faire quelque chose que personne d'autre n'arrive à faire. Et quand les autorités de la concurrence leur disent, bon, mais si vous êtes en monopole, il faut absolument vous appliquer les lois contre les monopoles, ils disent, non, mais pas du tout, ça c'est pour le marketing. Non, non, on est subi à une concurrence de tous les autres sodas d'une façon extrêmement agressive. Donc, je crois que par-delà le discours, il faut effectivement faire de la concurrence. Le véritable enjeu, notamment pour les pouvoirs publics, c'est effectivement de réviser les cours de première et de terminale d'économie, et puis de constater que dans ces cours, il est bien indiqué que ce qui est efficace, c'est la concurrence, c'est la politique de concurrence.
Mais alors, Éric Delannoy, le problème problème, c'est des négociations qui sont encadrées où on doit tout faire avant le 1er mars et puis on ne renégocie plus, ou c'est juste finalement la personne a envie de se reparler et... Parce que l'année dernière, tout le monde s'est reparlé pour faire passer les hausses.
Oui, tout le monde s'est reparlé parce que tout le monde avait intérêt à ce que ça augmente finalement. Donc, c'est toujours pareil. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire-là, c'est que d'abord, on parle de grands groupes. Moi qui suis patron de PME, je peux vous garantir que ces questions-là, on ne les voit jamais. Quand il y a eu cette inflation, que nous aussi on a dû augmenter les salaires et qu'il a fallu aller négocier avec nos clients qui sont des grands groupes, le fait de renégocier les contrats, vous êtes qui vous en fait, hein? Donc on est sur la gestion de rapport de force qui va continuer à accroître ce que moi je vois de plus en plus, qui est une polarisation entre les PME, ouais, qui ont du mal à s'en sortir parce que leurs marques sont en permanence comprimées. Et des grands groupes qui se mettent et qui s'associent dans des grandes centrales d'achat, etc., pour pouvoir peser et faire en sorte que les négociations aboutissent. Donc oui, quand on est organisé comme sont organisés ces gens-là pour pouvoir peser sur les négociations, on en vient à des batailles de chiffres. Et moi, je ne sais pas si il faut travailler sur les marges, pas les marges, etc. Ce que je constate quand même, c'est que à chaque fois qu'il y a un problème sur les coûts, on réclame des hausses de prix, et qu'à chaque fois qu'il y a des baisses de coûts, tout à coup, on explique que les prix ne peuvent pas baisser. Donc, certes, il n'y a pas une symétrie parfaite entre l'augmentation et la baisse, parce qu'il y a eu des salaires qui ont augmenté, et tout le monde, les salaires, ils ne vont pas baisser, donc forcément, il y a une rémanence sur l'augmentation.
On ne reviendra pas au prix d'avance.
Ça, c'est évident, et c'est d'ailleurs une des explications qui fait qu'il faut faire très attention aux hausses de salaire, mais c'est un autre sujet. Mais néanmoins, enfin, quand même, il faut regarder produit par produit, quelle est l'intensité en matière première des produits pour se dire, bah, quand les produits de matière première baissent, il faut savoir quel impact ça a sur les coûts. Mmh. Et ce n'est pas les questions de stock qui vont faire la différence.
François-Mickey Marty, d'ailleurs, on le voit bien, les Français ne sont pas dupes. Hein.
Non, ils ne sont pas dupes. Et je crois, parce que nous sommes dans un cénacle d'économistes ici, que les enjeux d'économie, les lois du marché sont extensibles aux enjeux d'opinion. C'est-à-dire que, très concrètement, aujourd'hui, vous avez les deux tiers des Français qui estiment que la hausse des prix, les prix extrêmement élevés, sont imputables aux stratégies de l'industrie agroalimentaire. Alors les 63% exactement, par ailleurs, à la grande distribution, c'est très intéressant. Parce que ils les mettent d'une part, et d'autre part, la guerre en Ukraine est reléguée à 30%. C'est-à-dire que, alors qu'après le 24 février 2022, les gens disaient « c'est à cause de la guerre en Ukraine qu'on va avoir des tensions inflationnistes », aujourd'hui les gens, pour la plupart d'entre eux, disent « c'est de la faute de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution ». Ça inverse totalement les perceptions. Et je dis au fond qu'il y a un ajustement qui est un peu comme sur les lois du marché, parce que je pense que ça n'est pas tenable dans la durée, c'est-à-dire y compris en termes business. Vous ne pouvez pas vendre des produits tous les jours et être considéré comme le principal responsable des niveaux de prix qui font qu'une partie des Français, aujourd'hui, ont du mal à accéder à la nourriture, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins élémentaires,
etc. Il y a un problème d'image.
Donc, il y a un problème d'image, de réputation, et y compris de crédibilité. Donc, je crois que par la force des choses, au-delà des rapports de force que le gouvernement essaie d'instaurer, par la force des choses, les uns et les autres sont obligés de rééquilibrer un petit peu la donne.
Il y a un problème d'image et de réputation, mais finalement, quand on regarde les ventes, on a quand même les ventes des produits des distributeurs qui marchent bien, et puis les ventes des grandes marques, elles n'ont pas reculé. Donc finalement, on a un problème d'image, mais les gens continuent d'acheter, et même des produits très chers. Donc comment on articule? Est-ce qu'il n'y a pas du ressenti, mais derrière la réalité économique? Éric Delannoy.
Non, mais moi, je voulais réagir sur le fait, il y a cet aspect, il y a un aspect psychologique fondamental par rapport à ça. À force de répéter partout qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, que les gens n'arrivent plus à se nourrir, qu'on ne consomme plus. Enfin, à un moment, il faut arrêter, quoi. Enfin, quand on regarde, il y a eu un sujet sur les classes les plus pauvres, enfin 20% des classes les plus pauvres. Ces gens-là ont eu une augmentation de leur pouvoir d'achat égale à l'inflation. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Ils ont eu une augmentation de pouvoir d'achat égale à l'inflation. C'est l'indexation du SMIC sur l'inflation. Plus de 10% en un peu plus d'un an. Donc on a eu des boucliers anti-inflation, on a des boucliers tarifaires dans tous les sens. L'INSEE fait la démonstration que la baisse du pouvoir d'achat, elle n'est pas aussi conséquente que ça. Elle est estimée à moins de 1%. 1%, regardez ce que ça fait sur un salaire, ça ne fait rien.
Même avec une inflation alimentaire
l'inflation alimentaire, l'INSEE a construit des paniers qui sont effectivement des paniers qui sont globaux. Ces paniers globaux, effectivement, ce sont des moyennes. Mais si on regarde systématiquement ce qui, dans le panier, augmente le plus, effectivement, on va avoir des prismes considérables. Mais moi, je suis désolé. Aujourd'hui, le taux d'épargne des Français n'a jamais été aussi élevé.
Plus de 17%.
Il n'a jamais été aussi élevé. Ouais. Donc les consommateurs ne consomment pas parce qu'ils ont un sentiment qu'effectivement c'est que les prix ont augmenté très fortement, mais ils thésaurisent. D'autant plus qu'aujourd'hui, en plus, les banques rémunèrent. Donc c'est ouais. Donc faut. Enfin, moi, les enquêtes d'opinion, je m'en méfie considérablement parce que je ne sais pas à quelle mesure elles reflètent un ressenti plutôt qu'une réalité.
Alors, elles reflètent une réalité, comme souvent chez François-Mickey Marty, notamment parce que quand on regarde sur le premier trimestre la consommation en volume des ménages en grande surface, on est en baisse de 10%.
Tout à fait.
Donc ça veut vraiment dire qu'effectivement, mais là vous avez peut-être raison.
C'est un arbitrage.
Oui, c'est un arbitrage.
C'est pas des incapacités, c'est des arbitrages.
Effectivement, alors on va poser la question à Jean-Marc. C'est vrai qu'il faut faire attention. On est beaucoup focalisé sur l'alimentaire, qui ne représente plus que quoi,
17%
17 à 18%. Dans l'évolution de la consommation, il y a effectivement, l'INSEE le dit aussi, c'est qu'elle a du mal à faire le partage entre le volume et les prix. C'est-à-dire qu'il y a des.
Mais le volume, on le voit sur les chiffres de caisse. On a eu les chiffres de caisse du premier trimestre et ça baisse de 10%.
Oui, mais il y a la qualité des produits. Est-ce que le produit qu'on achète, effectivement, qui est un peu plus cher, est-ce qu'il ne correspond pas à un service rendu qui est plus important? Donc, l'INSEE a quelquefois du mal à partager entre l'amélioration du produit et la hausse du prix stricto sensu. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, l'inflation, normalement, c'est une augmentation des prix. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que les prix sont montés, les grands réseaux de distribution vont les maintenir. Donc, il n'y aura plus d'inflation, mais il y aura quand même eu à un moment donné des prix qui sont relativement élevés. Et puis alors, effectivement, il y a une perception, là, je rejoins ce qui a été dit, sur le fait qu'on n'arrête pas de parler de pouvoir d'achat. Vous savez que en ce moment, le RSA, en pouvoir d'achat, est l'équivalent du SMIC de 1972. C'est-à-dire qu'en 1972, pour avoir le même pouvoir d'achat qu'aujourd'hui, il fallait travailler 40 heures par semaine avec 4 semaines de congés payés. Donc il y a eu une amélioration colossale du niveau de vie de la population.
Oui, mais avec des nouveaux besoins, les abonnements.
Donc la vie a changé, mais on a l'impression qu'on vit dans une tiers-mondisation absolue. Alors qu'on nous parle des 30 glorieuses, des années 70 comme des années rêvées. Et donc il y a quand même une dimension qui est une dimension effectivement psychologique, une dimension de comparaison avec une immédiateté, c'était, on se souvient de ce que c'était il y a un an, deux ans, on oublie ce que c'était il y a 20 ou 30 ans. Et puis, la dernière remarque que je ferais, c'est que une partie de la hausse des prix est aussi une forme de rattrapage par rapport à des périodes où les prix baissaient. C'est-à-dire, non seulement il n'y avait pas d'inflation, je rappelle qu'en 2019, avant la crise de la Covid, la grande question que l'on posait aux banques centrales, c'était: comment est-ce que vous allez faire pour lutter contre la déflation? Comment est-ce que vous allez faire pour éviter cet effondrement d'un certain nombre de prix et par rapport aux 2% d'objectifs que l'on vous donne, comment est-ce que vous allez les atteindre? Donc, je pense que effectivement, il y a une vision assez courte, une perception assez courte de ce que l'on vit. La toute dernière remarque, c'est que là aussi, vous commencez à voir, Céline, c'est qu'il dit, sur le mois d'avril, vous commencez à avoir des baisses de prix alimentaires par rapport à l'année dernière. Il y a certains produits des légumes qui sont en train de baisser.
Alors avec Pauline, on a trouvé justement des prix qui baissent.
Absolument, c'est dans un secteur de l'alimentation qui lui, alors croît en petit à petit en part de marché, mais dont les prix baissent, c'est celui du simili carne, donc les viandes végétales. Jean-Marc, alors la start-up française Apivore, c'était notre invité tout à l'heure, a inauguré hier sa première usine dans le Loiret, une usine qui justement lui permet de tirer les prix vers le bas. Son cofondateur Guillaume Dubois nous explique tout.
On a réussi à baisser un tout petit peu le prix pour les consommateurs, même en la période d'inflation.
Grâce à
l'arrivée de l'usine, justement, parce qu'on optimise beaucoup mieux nos process, parce que du coup les lignes sont internalisées.
On massifie,
on optimise le process, et aussi malgré les hausses en fait des matières premières, de l'huile par exemple à cause de la guerre en Ukraine, des hausses d'énergie, on a réussi à maintenir les prix.
Alors évidemment, c'est une transition toute trouvée pour vous demander, si les Français sont prêts à se passer de viande, en tout cas aller de plus en plus vers la viande végétale. Et je ne sais pas si vous les avez déjà sondés, François, les Français, là-dessus.
Oui, il y a des études qui ont été faites au niveau européen.
Ah oui.
38% des Européens.
Il est formidable, François Métier.
Oui, mais c'est vrai, mais
j'adore.
Il y a une confusion.
C'est son métier, en même temps.
Oui, c'est mon métier.
C'est son métier.
C'est mon métier, et puis nous avons la chance d'avoir des données qui permettent de mieux comprendre, qui sont récemment précieuses. Voilà. 38% des Européens souhaitent réduire leur consommation de viande au cours des années qui viennent. 6% seulement sont totalement végétariens. Enfin, je ne sais pas s'il faut dire seulement, d'ailleurs. Voilà. Et en France, 27% des Français sont engagés dans une réduction assez forte de leur consommation de viande. Mais
Ça procède des questions climatiques auxquelles Jean-Marc Daniel est extrêmement attaché. Mmh. Ça procède aussi des questions liées à la souffrance animale de plus en plus, qui est un autre sujet, mais qui est l'un des facteurs de motivation très important. Et puis, bien sûr, même si Éric Delannoy est plus prudent sur ces choses-là, ça procède aussi des questions financières. Donc on a en réalité dans l'aspiration à la réduction de la consommation de viande, accumule. Ce n'est pas lié uniquement à la volonté de préserver la planète. Il y a aussi des enjeux de souffrance animale et souvent des questions financières qui sont quand même très déterminantes des comportements. Et si l'on souhaite des évolutions concernant les questions climatiques et environnementales, il est bon qu'elles soient alignées sur les questions financières, car ça demeure un levier extrêmement déterminant malgré tout.
Éric, justement, ça s'adapte bien à notre modèle agricole. Ça va être une transition, faire moins d'élevage, plus de culture pour faire de la viande simili-carnée notamment.
Ça s'adapte de mieux en mieux au modèle agricole. C'est pas encore tout à fait ça, mais il faut savoir que la culture du soja, par exemple, en France, était quasiment multipliée par deux en 10 ans.
Ouais.
Que le quinoa est en train d'émerger. Enfin, je parle sciemment du soja et du quinoa, qui sont les deux composants essentiels de ces steaks végétaux.
Alors il y a aussi, alors ce que nous, dans celui qu'on a reçu, Apivor, c'est essentiellement du pois chiche, la betterave pour la couleur de la viande. Voilà.
Enfin, la betterave, c'est une culture traditionnelle
bien sûr
de la France.
Ouais.
Bref, en fait, on est sur une adaptation de l'agriculture qui, en plus, va très bien avec les conditions environnementales qui, notamment, se dégradent, qui est l'augmentation de la température. Ce sont des cultures qui s'adaptent assez bien au réchauffement climatique. Mmh. Donc, alors, on veut lutter contre le réchauffement climatique, mais en même temps, on a des solutions pour pouvoir y faire face. Maintenant, il faut voir que la viande par rapport au steak végétal, la grande différence quand même, c'est qu'en consommation de CO2, ça ne fait pas photo. En consommation d'eau, ça ne fait pas photo. Ouais,
c'est 10 fois plus.
12 fois plus en CO2 et 3 fois moins en eau.
Ouais.
Donc on voit bien que c'est une tendance qui va. On voit ressurgir finalement, en termes de consommation, le vieux clivage entre conservateurs et progressistes, entre ceux qui vont, les irréductibles de la côte de bœuf versus les progressistes qui se disent il faut suivre l'évolution du changement climatique. À titre personnel, je pense qu'il faut rajouter la composante plaisir dans cette histoire-là, dont on n'a pas encore réussi à
mesurer
le point.
C'est très bon, la viande végétale. Hein. J'ai déjà essayé. Alors, le problème, c'est tout le dilemme de Jean-Marc Daniel, qui se veut progressiste, notamment vieille de sa fille. Il se veut écolo, il nous donne des leçons, et en même temps, il est un peu conservateur, puisqu'il continue à manger de la côte de bœuf.
Mais écoutez, les deux ne sont pas incompatibles. D'ailleurs, cette semaine, c'est quand même un festival hein, sur cette chaîne. Puisque
c'est toujours un festival sur cette chaîne.
Oui, non, mais en la matière, puisqu'on a eu droit à des insectes il y a 2-3 jours de ça.
Oui.
Les insectes.
Scarabée,
oui,
qu'on a voulu vous faire manger.
Absolument. Donc, je ne sais pas si c'est être conservateur, mais je reste quand même attaché par rapport aux insectes et au steak végétal, à la côte de bœuf de temps en temps. Enjeu, c'est
avec modération.
Et donc, le véritable enjeu, c'est de lui donner le vrai prix, notamment au travers de la prise en compte de l'externalité que constitue le réchauffement climatique et la détérioration de notre environnement. Donc, plutôt que d'être très conservateur progressiste, il suffit d'être près de ses sous et on arrive à ce moment-là à un choix qui est un choix assez rationnel.
Enfin. Non, ce que l'on voit en réalité, c'est que les Français sont de plus en plus attachés à leur identité en termes de consommation. C'est une concurrence potentielle des modes de vie. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont dire « Attendez, moi je tiens, comme Jean-Marc Daniel, à ma côte de bœuf » et je n'en démordrai pas. Mmh. Et vous n'allez pas me faire changer d'avis.
Ouais,
et d'autres qui considèrent que par impératif planétaire, etc., climatique, il est obligatoire de changer. Et donc, je crois que nous allons aller malheureusement, enfin, il y a une forte probabilité pour que nous y allons au cours des années qui viennent vers une concurrence exacerbée des modes de vie, les uns et les autres cherchant, y compris par des moyens réglementaires, légaux, etc., à imposer à ceux qui sont en désaccord leur propre mode de vie.
C'est très vrai. Et regardez aux États-Unis sur la transition énergétique, on a ce clivage hein, entre ceux qui veulent effectivement du renouvelable, etc., puis ceux qui disent, moi je veux du pétrole, et j'investis dans le pétrole et je consomme du pétrole. C'est pareil en
oui,
fait.
Oui, hein. Il s'agit à la fois de la question planétaire et puis de préserver sa propre identité. Donc ça n'est pas de la plaisanterie. Là on plaisante parce que nous sommes dans un endroit agréable où il est possible de plaisanter le matin, mais potentiellement, je pense qu'il y a une conflictualité derrière ça qui peut être assez forte.
Il y a une crispation qui se fait, mais ce qui est cocasse dans cette histoire-là, pour être une touche un peu plus légère, c'est qu'avec la viande végétale, on revient finalement sur l'étymologie du mot viande, hein, qui en fait était ce qui se mange pour être vital. Et que donc ça désignait l'ensemble de la nourriture jusqu'au milieu du 19e siècle.
Alors là, vous allez coiffer Jean-Marc, qui en général nous donne des leçons d'étymologie et de latin. Et bien, voyez, regardez là, on a trouvé plus fort que vous.
Mais oui.
Il faut manger de la viande au sens hein, de ce qu'il va permettre de vivre longtemps. Trop de protéines.
Mais justement, pour rebondir sur ce qu'on il faut manger pour se nourrir, et donc, mais je pense que concrètement, on passe à une phase, ce que j'appelle pagano-gauchiste, c'est-à-dire des gens qui ont une vision religieuse du rapport à l'écologie et une vision politique, en ce sens qu'ils veulent utiliser l'écologie pour abattre le système capitaliste. Et c'est ça le véritable danger de ce genre de démarche.
Il faut se prémunir des excès, mais manger des steaks végétaux, c'est pas forcément du militantisme. Jean-Marc, c'est peut-être juste prendre soin de la planète.
Oui, oui, absolument. Il faut prendre soin de la planète sans réclamer la mise à mort des riches.
Si vous allez à Lyon et avec votre SUV, vous savez que vous allez payer beaucoup plus cher pour le stationnement à la rentrée.
Oui, pourvu que je puisse continuer à y manger des tabliers de sapeur.